الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا اليوم هو 28 من شهر محرم عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني والعشرين من كتاب من شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 29 octobre 2016 et nous entrons inshallah aujourd'hui dans le 22e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid de son auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyy al-kabir, dont le sens rapproché est: quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, c'est lui al-'Ali al-Kabir, le très élevé, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que l'auteur, rahimahullah, nous montre à travers ce verset que même les anges, qui sont des créatures rapprochées d'Allah, dotées de capacités que l'humain n'a pas, sont pourtant assujettis à l'ordre d'Allah, azza wa jal, si bien que les anges craignent Allah. Et quand ils l'entendent, ils tombent foudroyés par crainte de lui, subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, il est clair qu'ils ne méritent pas l'adoration. S'ils ne méritent pas l'adoration alors qu'ils sont ce qu'ils sont, les créatures moindres qu'eux, à plus forte raison, ne la méritent pas. Et c'est pour cette raison que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre, qu'Allah le récompense. Que pouvons-nous tirer comme conclusion et comme leçon de ce verset? Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum. Premièrement, ce que vous venez juste d'entendre au sujet du fait que les anges sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qulubihim. Allah azza wa jalla nous informe que les anges ont des cœurs, puisqu'ici on parle de la frayeur qui est éloignée de leur cœur. Les anges ont des cœurs. Et dans le domaine de l'invisible, on se doit d'affirmer ce qu'Allah a affirmé et de nier ce qu'Allah azza wa jalla a nié. Quant à ce qui n'a pas été mentionné ni cité, on doit faire preuve de retenue. On doit se taire et dire: je ne sais pas, je n'affirme pas et je ne nie pas. Pourquoi ? Parce qu'aucun texte n'affirme et aucun texte ne nie. Et moi, je dois suivre les textes. Si les textes ne l'ont pas dit, je n'ai pas à dire moi. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le hadith que l'on retrouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, dont nous avons étudié le sens et où nous voyons ce que font les sorciers et les devins lorsqu'ils sont à la recherche des informations de l'avenir. Et nous avons vu ce qu'ils font. Ils sollicitent les démons parmi les djinns, à qui ils vont vouer des actes d'adoration. Et en échange, le djinn va rendre service à ce devin et à ce sorcier. Comment ? Ils vont monter les uns sur les autres jusqu'à arriver proche de l'assemblée des anges qui justement ont cet échange entre eux. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit ? Et lorsque les autres répondront en disant ce qu'Allah a dit concernant ce qu'il arrivera demain à telle et telle personne, ces démons qui sont à côté essaient de prendre de ces informations. Puis quand ils y arrivent, ils prennent la fuite immédiatement avec une information. Il se peut qu'entre-temps, ils soient rattrapés par une étoile filante qu'Allah va envoyer pour le détruire. Tout comme il se peut, par la sagesse d'Allah, qu'il arrive au sorcier qui l'a sollicité et lui transmette alors cette information, à laquelle le sorcier va ajouter sans mensonge, qu'il va enjoliver, et afin que sa victime, je ne dirais pas son client, mais sa victime, car elle a été victime non seulement du shirk billah subhanahu wa ta'ala, mais même de la perte de ses biens inutilement, parce qu'il a payé ce voyant. Ce voyant va dire au sorcier, il arrivera demain telle et telle chose. Puis le lendemain, cette information qu'il a prise des anges, des démons, pardon, et qu'il a donnée à cette victime, ce malade, effectivement, elle va avoir lieu. Alors cet homme va aller voir tous les gens de son entourage et va leur dire, « Wallahi, je l'ai consulté, il m'a dit, il t'arrivera ça, et ça m'est arrivé. » Et c'est comme ça que les gens tombent dans le shirk, dans le domaine de la voyance. « Wal'iyadhu billah. » Mais ici, on connaît le secret et ce qui se passe en réalité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité un récit qui a été jugé faible par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Nous allons quand même le lire, mais sachez qu'il est jugé faible. « An al-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Et le sens de ce récit est le suivant. D'après Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah le Très-Haut désire révéler quelque chose, il énonce la révélation et les cieux en tremblent, à moins qu'il ait dit ou s'ébranle fortement, par crainte d'Allah. Lorsque les occupants des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent en prosternation devant Allah. Le premier à relever la tête est Jibril, à qui Allah révèle ce qu'il veut. Puis les anges de chaque ciel, voyant Jibril passer près d'eux, lui demandent « Qu'a dit notre Seigneur au Jibril ?» Il répond alors « Il a dit la vérité, c'est lui, le Très-Haut, le Très-Grand. » Et tous les anges de répéter les mêmes propos que Jibril. Ce dernier transmet alors la révélation là où Allah Azza wa Jal lui a ordonné de le faire. Subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que comme nous l'avons dit, ce récit a été jugé faible par l'imam Al-Albani, qui est le plus grand savant de l'authenticité et la faiblesse des hadiths de notre époque. Mais le verset et le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari sont suffisants pour nous faire comprendre ce que l'auteur a voulu à travers ce chapitre, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a quand même cité quelques fawaïd, des leçons bénéfiques tirées du récit de l'imam Al-Bukhari. Il dit, la première fa'ida, anna sunnata nabawiyya tufassiru al-Qur'an. La première leçon à tirer est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est explicatrice du Coran, ou explicative. En tout cas, elle explique le Coran. Je n'ai plus le mot en tête, mais que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille et explique le Coran. Comment on le voit? On voit le premier texte dans ce chapitre qui est un verset, et on en voit l'explication détaillée dans le hadith. Et ça, c'est important. À savoir que la sunna nous détaille et nous explique le Coran. Et on ne peut en aucun cas se passer de la sunna. Seul un égaré peut prononcer une telle parole. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité l'ordre de s'acquitter de l'aumône dans le Coran. Mais les détails nous ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne se basait que sur le Coran, on serait ignorant de la manière de s'acquitter de cette aumône, qui sont les ayants droit, quand est-ce qu'on doit payer cette aumône. Tout cela a été détaillé par la sunna. La sunna est inséparable avec le Coran. Et celui qui sépare la sunna du Coran n'est qu'un égaré ou un ignorant trompé par un égaré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, إثبات صفات الله سبحانه وتعالى فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. La deuxième chose, on voit dans ce récit qu'Allah Azza wa Jal a des attributs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé des attributs, parmi lesquels l'élévation d'Allah au-dessus de sa créature. Allah est élevé au-dessus de sa créature. Et ça, on le voit dans le hadith, les démons qui cherchent à soutirer des informations des anges à qui Allah s'est adressé, subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'ils vont? Ils montent. Ils montent les uns sur les autres tellement haut qu'ils arrivent à côté des anges auxquels Allah Azza wa Jal s'est adressé. Et Allah est au-dessus d'eux. Il est au-dessus des anges, tabaraka wa ta'ala. Donc on voit qu'Allah est élevé. Et on ne dit pas, excusez-moi, on ne dit pas Allah est partout. On ne dit pas, on ne sait pas où est Allah. On n'a pas le droit de savoir, de demander où est Allah. Comme le disent Al-Asha'ira, qui n'ont pas la bonne croyance. Ils ont adhéré à une croyance erronée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah est au-dessus des cieux et nous le disons comme lui l'a dit. On s'arrête ici. On voit également qu'Allah Azza wa Jal est qualifié par l'attribut de la parole. Il parle, subhanahu wa ta'ala. Et on ne dit pas, comme disent Al-Mu'tazila, que par exemple le Coran est créé et qu'il n'est pas la parole d'Allah. Allah a créé un arbre et l'a appelé arbre. Il a créé le Coran et l'a appelé Coran. Wal'iyadhu billah. C'est faux. Le Coran est la parole d'Allah. Allah parle, tabaraka wa ta'ala, comme il veut, quand il veut, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. La troisième leçon à tirer de ce récit, وهي التي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجلها بطلان التعلق على الملائكة. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur a mentionné ce chapitre qui est la preuve qu'on n'a pas le droit de s'attacher aux anges, s'attacher pour les adorer, les solliciter comme on sollicite Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que faisaient les gens de l'époque anti-islamique qui, parmi certains, adoraient les anges. Et aussi d'autres le font à cette époque qui est la nôtre. Et il disait même que les anges étaient les filles d'Allah. Wal'iyadhu billah. Et c'est vraiment là quelque chose de gravissime. Quatrièmement, في الحديث إثبات استراق السمع وأن الشياطين قد يسترقون السمع وهذا كان في الجاهلية كثيرا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وقل استراق السمع قال بعضهم لبعض وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني هذا في الجاهلية فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Quatrièmement, on voit dans ce récit qu'il est possible aux démons de soutirer des informations des anges quand ils disent ce qu'Allah a décrété pour le lendemain. Subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque anti-islamique, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les démons le faisaient énormément. Ils le faisaient beaucoup. Ils soutiraient des informations. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a été envoyé, les cieux ont été protégés par Allah Azza wa Jal, par les étoiles qui sont envoyées pour les brûler, pour les exterminer. Et après cela, ils n'ont pu soutirer que très peu d'informations comparées à avant ce temps. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Suratul Jin, parce que les djinns ont dit « Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i » En parlant des cieux, les djinns disaient qu'ils y trouvaient un endroit où ils attendaient pour écouter, c'est-à-dire pour soutirer les informations. Et ça, c'est avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Faman yastami'i l'an » Puis ils ont dit « À présent » c'est-à-dire après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, « Quiconque cherche à écouter, yadid lahu shihaban rasada » trouvera, dans le sens rapproché du verset, une étoile qui va le chasser. Une étoile qui va le chasser. Cinquièmement, « Fihi butlanu sihri wal kihana wa anna masdarahuma wahid » On voit dans ce récit la caducité, le caractère caduc et nul de la sorcellerie et de la voyance qui ont une source. Quelle est cette source? C'est qu'ils prennent leurs informations des démons. Et ça, on le développera dans un chapitre, inshallah, qui portera sur la sorcellerie, sur la voyance, où vous entendrez en détail ce qu'est la sorcellerie, comment le sorcier fait, et d'autres choses, inshallah. فَلَا يُقْبَلُوا السِّحْرِ وَلَا خَبَرُ السَّحْرِ Ainsi, on n'accepte pas la sorcellerie et on n'accepte pas non plus l'information émanant du sorcier. وَلَا تُقْبَلُوا الْكِهَانَ وَلَا خَبَرُ الْكَاهِنِ لِأَنَّ مَصْدَرَهَا بَاطِلِ Demain pour le voyant. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas d'eux? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas leurs informations? Car leur source est une source mauvaise. Leur source, ce sont les diables, ce sont les démons. Et on ne prend pas de celui qui prend d'un diable et d'un démon. Wal'iyadu billah. D'ailleurs, dans un hadith, et ça on le verra plus tard aussi, inshallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ata kahinan ou arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » Quiconque se rend chez un devin ou un voyant, puis croit à ce qu'il lui dit, aura mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra que la sorcellerie, wal'iyadu billah, c'est du kufr, et que celui qui le fait, qui l'apprend, qui l'enseigne, et qui va avec le sorcier, tout cela entre dans le kufr et dans le shirk. Sixièmement, ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. Il dit, ça c'est l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui dit qu'on voit que les âmes aiment accepter le faux. On voit que les âmes, l'âme humaine, aime accepter ce qui est faux, surtout quand c'est enjolivé. Il dit, ils se sont cramponnés à une chose vraie et ils n'ont pas prêté attention aux 100 mensonges. Ils ont été voir le voyant. Le voyant leur a donné 101 informations. Une vraie et 100 fausses. Les gens ont vu la vraie, ils ont oublié tout ce qui est faux. Ils ont pris une vérité, ils ont oublié 100 mensonges. Et ils se sont attachés à ce sorcier parce qu'il leur a dit une vérité. Ça montre que l'homme penche souvent vers ce qui est faux et aime, parce que l'âme, elle est incitatrice au mal. Mais l'homme doit la combattre. Il doit s'éduquer par l'apprentissage de son dîn, par l'apprentissage de sa religion. Taïeb. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre bénéfique qu'Allah récompense son auteur. L'auteur, rahimahullah, passe à un nouveau chapitre intitulé Bab al-Shafa'a, le chapitre de l'intercession. Ce chapitre a une importance extrême. Ce chapitre est un des sujets où les gens commettent le plus de polythéisme, de shirk, akbar, qui exclut de l'islam, et va découler de l'erreur des gens dans ce chapitre qui est shafa'a, l'intercession, énormément de paroles qui relèvent du shirk, énormément d'actions qui sont du shirk, énormément de croyances qui sont du shirk, à cause d'une mauvaise compréhension dans ce sujet-là. C'est pour cette raison qu'il a toute son importance et que s'il est bien compris, il peut mener au tawhid pur, et s'il est mal compris, il peut faire couler la personne dans des formes de shirk indénombrables. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Al-Shafa'a. Qu'est-ce que Al-Shafa'a? Dans la langue arabe, Al-Shafa'a, c'est Al-Tawassutu bil-Ghayr fi jalbi manfa'a ou daf'i madarra. C'est le fait de prendre autrui comme intermédiaire pour acquérir un bien ou repousser un mal. Ça, c'est dans le sens linguistique. At-tawassutu bil-ghayr li jalbi manfa'a aw daf'i madarra. Prendre autrui comme intermédiaire pour acquérir un bien ou repousser un mal. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela shafa'a? Dans shafa'a, il y a shaf'un. Et shaf'un, dans la langue arabe, signifie père, comme le nombre père. Le chiffre 2, 4, 6, 8 sont des chiffres pairs, shaf'un. Et le contraire de pair, c'est l'impair, n'est-ce pas? Witrun. C'est pour ça que les gens qui prient 3 raka'a après la prière du Isha les appellent al-shaf' et al-witr. Pourquoi? Parce que les 2 raka'a sont impairs, shaf'un, et parce que la dernière est pair, witr. Même si en réalité, on appelle tout cela witr. Dans la sunna, il n'y a pas shafa, il y a witr pour les prières de, après l'Isha. C'est-à-dire witr pour une raka'a et shafa pour 2 raka'a. Tayyib. Shafa, impair. Witr, pair. Et les 3 raka'a que l'on fait après l'Isha, on les appelle tous witr. Quoi qu'il en soit, le fait de faire al-shafa'a, l'intercession, c'est quelqu'un qui à la base est seul. Ce quelqu'un a un besoin. Et pour pouvoir obtenir ce besoin qu'il a, il va se joindre à quelqu'un à qui il va demander l'intercession, n'est-ce pas? Au moment où il s'est joint à ce quelqu'un, ils sont devenus 2, n'est-ce pas? Et 2 c'est un père. Et 2 c'est père, pardon. Barakallah fait. 2 c'est père. Donc, on appelle ça al-shafa'a. C'est le fait qu'un individu se joigne à un second et ils vont former un chiffre pair qui est 2. Et al-shafa'a, c'est ce que nous avons dit. Quelqu'un qui va solliciter un autre pour pouvoir acquérir un bien ou repousser un mal auprès de quelqu'un d'autre. Un exemple, un individu veut épouser une femme, mais la famille de cette femme ne connaît pas cet individu. Il va faire appel à quelqu'un qu'il connaît et qui connaît cette famille pour lui dire « J'ai besoin que tu intercèdes en ma faveur auprès de cette famille. » Ce quelqu'un va se rendre chez la famille et leur dire « Je le connais, c'est quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un de pieux. Et suite à cela, suite à cette intercession, la famille va accepter. C'est ce qu'on appelle al-shafa'a. Et al-shafa'a, dans ce bas monde, le fait d'intercéder pour autrui, dans un bien, c'est quelque chose de bien, de recommandé. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « Man yashfa'a shafa'atan hasanatan, yakullahu nasibun minha. » Celui qui fait une bonne intercession en aura une part. C'est-à-dire, le jour dernier, celui qui a intercédé pour quelqu'un afin qu'il puisse obtenir un bien recherché, qui n'est pas quelque chose d'interdit par Allah, Azza wa Jal, aura une récompense pour cette intercession. وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. Et celui qui fait une mauvaise intercession en aura une part de péché. Par exemple, quelqu'un qui va intercéder auprès d'un autre afin d'obtenir un mal, afin d'obtenir quelque chose qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala, cette intercession est mauvaise. Elle est interdite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'intercession dans son sens linguistique et l'intercession dans ce bas monde. Qu'est-ce que l'auteur veut, rahimahullahu ta'ala, à travers ce chapitre? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle du fait de demander à une créature que cette créature soit un pieu, un ange, un prophète ou toute autre créature, lui demander d'intercéder pour elle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est voulu ici. Quand il dit Bab al-Shafa'a, chapitre de l'intercession, c'est-à-dire le chapitre du jugement de l'intercession. Bab Hukm al-Shafa'a, le jugement de l'intercession chez Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle se divise en deux, comme on va le voir, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Voilà ce que l'auteur veut. Le Cheikh al-Fawzan hafidhahullah a dit wa murad al-musannif min hadha al-bab. À travers ce chapitre, l'auteur veut annahu lamma kana al-mushrikuna qadiman wa hadithan ya'buduna min dunillahi al-asnama wal-ashjara wal-ahjara wal-qubura والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. L'auteur veut montrer à travers cela que les polythéistes, les associateurs, anciens et même contemporains, qui adorent toutes sortes d'idoles en dehors d'Allah, que ce soit des statues, des arbres, des pierres, des tombes, des mausolées, des pieux, des vertueux, des anges, des prophètes. Lorsqu'on leur fait le blâme et la critique, ils disent ce qu'Allah a cité dans le Coran. Ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Ces divinités sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils veulent justifier leur acte de chef de polythéisme en le rendant valable et en disant nous savons qu'ils sont créés, nous savons que le Créateur est Allah, Azza wa Jal, et que l'ordre tout entier est détenu par Allah et dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Mais, du fait que ce prophète que nous adorons, ce wali, ce pieux que nous adorons, cet ange que nous adorons, etc., a un rang haut placé auprès d'Allah, et est fortement aimé d'Allah, Azza wa Jal, nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès d'Allah. Pourquoi? Nous sommes trop lourds de péché. On ne peut pas demander à Allah directement. Nous sommes trop sales. Wal'iyadhu billah. Alors, nous passons par ceux qui sont pieux et proches d'Allah afin que eux demandent à Allah pour nous. Et c'est exactement la croyance des chrétiens avec Isa alayhi salam. Ils disent, on ne peut pas demander à Dieu. Nous sommes trop sales de péché. Mais Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, on lui demande. Et lui, il demande pour nous à Dieu. Wal'iyadhu billah. Hadha huwa shirku billahi bi'aynih. Voici le polythéisme, l'association à Allah dans toute sa réalité et dans laquelle beaucoup de gens tombent. On voit d'ailleurs ces gens qui, à cause de cette croyance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier pour autre qu'Allah des bêtes. Ils vont formuler des vœux pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils vont invoquer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en leur demandant le secours, en leur demandant la protection. Ils vont faire toutes ces choses, et quand on va les blâmer, ils vont dire non, on ne les adore pas. Simplement, on leur demande d'intercéder pour nous auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir, comme Allah Azza wa Jal a dit, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, Allah a dit dans Surat Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne le nuit en rien, ni ne leur tire profit, et disent, ils sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Regardez comment ils justifient leur shirk et leur polythéisme. Ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Parce que la plupart des mushrikoun, surtout ceux que l'on retrouve dans Soufiya, dans le soufisme, ils ont exactement cette ambiguïté-là, qu'Allah a réfuté dans ce verset et dans d'autres. Ils disent, seul Allah est créateur, seul Allah est le pourvoyeur, c'est lui le Tout-Puissant. Et nous, nous n'adorons pas, nous ne sommes pas des associateurs, mais simplement, on demande à ceux qui sont proches d'Allah de nous rapprocher de lui. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ou ce qu'ils font peut-être semblant de ne pas comprendre, c'est que cette demande en elle-même à autrui de le rapprocher d'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. C'est à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il faut demander. Et l'intercession, on ne la demande pas à la créature, mais on la demande au créateur, à celui qui la possède. Et l'intercession est un droit d'Allah tabaraka wa ta'ala que nul autre que lui ne partage avec lui, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a cité وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, et ils adorent en dehors d'Allah. Adorer en dehors d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est du shirk, c'est du polythéisme. Ce qui ne les nuit en rien, ni ne leur tire profit. Donc déjà, ils commettent du polythéisme avec des créatures qui ne peuvent rien leur faire. Comme on l'a vu dans les autres versets, ils ne créent rien, ils ne peuvent pas créer une mouche, ils ne possèdent pas la pellicule d'un noyau de date, ils ne peuvent pas ni les guérir, ni les protéger, ni les secourir, ils ne peuvent pas eux-mêmes se secourir. Subhanallah. Et ils disent, ils sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, dans surat Az-Zumar, les groupes, et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, أَوْلِيَا, le pluriel de Wali, et c'est exactement ce que font les gens quand ils disent un tel est Wali, un pieux, un allié d'Allah, on lui demande, car lui va faire amener notre demande à Allah Azza wa Jalla. Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, qu'est-ce qu'ils disent? مَا نَعْبُدُهُمْ, nous ne les adorons, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a répondu à cela, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, Allah va juger entre eux dans leur divergence. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Al-Sheikh al-Fawzan a dit سَمَّ فِعْلَهُمْ هَذَا كَذِبًا وَسَمَّهُ كُفْرًا, Allah a nommé cette action qu'ils font mensonge, et il l'a nommé aussi mécréance. لَمْ تَنْفَعْهُمْ اِعْتِذَارَاتُهُمْ, les excuses qu'ils ont présentées pour justifier leurs actes n'ont pas été utiles pour ces gens-là. Pourquoi? وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَاسُوا الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مُلُوكِ الدُّنْيَا, car en agissant ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'analogie entre le Créateur et les rois de ce bas monde. Ils ont fait une comparaison. Ils ont mis Allah Azza wa Jal, qu'ils le veuillent ou non, au même niveau que les rois de ce bas monde. Comment cela? C'est là que vous allez comprendre pourquoi demander la shafa'a à un autre qu'Allah, c'est quelque chose d'extrêmement gravissime. Wal'iyadu billah. Pourquoi? فَكَمَا أَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِمْ عِنْدَ مُلُوكِ الدُّنْيَا أَنَّهُمْ يُوَسِّطُونَ الشُّفَعَاءَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُلُوكِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ. Tout comme les gens qui cherchent à parvenir au roi de ce bas monde, ils veulent aller se rendre chez les détenteurs de l'autorité, qui peuvent être des rois ou toute autre personne, que forcément, comme vous le savez, on ne peut pas atteindre. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Aller chercher des intermédiaires et leur demander l'intercession. Leur demander l'intercession pour qu'ils puissent faire parvenir nos demandes aux intéressés, qui sont les détenteurs de l'autorité, les rois, etc. Qasullah jalla wa ala bi khalqi. Ceux qui ont demandé l'intercession aux autres qu'Allah azza wa jalla, ils ont fait exactement la même chose avec Allah. Et ils l'ont mis au même statut que la créature. Pourquoi? اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء. Ils ont pris auprès d'Allah des intercesseurs, des intermédiaires, comme on le fait dans le bas monde pour atteindre le roi. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, on lui demandait quelque chose, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous faire amener notre demande chez lui? Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît toutes nos langues. Il connaît le contenu de nos cœurs, il connaît nos besoins, que l'on soit en France, au Pérou, au Brésil, au Ghana, en Afrique, en Inde, que l'on soit dans l'eau, en mer, que l'on soit dans l'air, dans la voiture, en moto, et que tout le monde demande avec la même au même moment, tous dans un même endroit, chacun demande à Allah des centaines de choses dans sa langue, chacun va élever sa voix. Allah tabaraka wa ta'ala, avant même que ces gens-là ne lui fassent leur demande, savait ce qu'ils avaient demandé. Subhanahu wa ta'ala. Avant même qu'ils ne naissent, ils savaient qu'à telle date, ils allaient aller dans tel endroit pour demander. Subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'ils sont dans cet endroit, le fait qu'il y avait beaucoup de voix élevées, tous les gens de la terre qui parlent en même temps. Vous allez comprendre quelque chose, vous? Vous allez mourir. Ce son sera trop fort pour vos oreilles. On ne pourra pas supporter cela. Allah Azza wa Jal, ça ne lui fait rien du tout. Il comprend tout le monde. Il entend tout le monde, et s'il veut, il donne à tout le monde. Et comme il l'a dit dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam muslim d'après Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, « Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum, si les premiers et les derniers d'entre vous, ce sont là des milliards parmi les créatures, wa insakum wa jinnakum, vos hommes et vos djinns, qamu fi sa'idin wahid, se tenaient debout dans une place, fasa'aluni, pour me solliciter, fa'ataytu kulla wahidin minhum mas'alata, puis que je donnais à chacun d'entre eux tout ce qu'il m'a demandé, ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqasu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Cela ne diminuerait en rien de mon royaume si ce n'est comme une aiguille qu'on a trempée dans la mer. La ilaha illallah. Trempe une aiguille dans un verre. Trempe une aiguille dans un verre d'eau. Fais-le. Ça va te rappeler le tawhid. Prends une aiguille et trempe-la dans un verre d'eau. Laisse-la, si tu veux, une semaine. Après cette semaine, prends cette aiguille et sors-la. Regarde-la. Il y a quelque chose? Trempe cette aiguille dans la mer maintenant. Il peut y avoir quelque chose? Eh bien, toutes ces créatures qui demandent tous à Allah, chacun dans sa langue, chacun a 1000 demandes, 3000 demandes. Il veut un enfant, il veut la bonne santé, il veut être riche, il veut réussir, il veut être pardonné, il veut être guidé, il veut le paradis, il veut être aimé d'Allah. Il veut le bien, il veut. Il ne veut pas être malade, il ne veut pas que ses enfants tombent malades, il ne veut pas être touché par le mauvais œil. Et ils demandent tous dans leur langue. Chacun élève sa voix, ils sont tous là à demander. Allah leur donne tous. Ça ne fait rien du tout du royaume d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pourquoi après ça, tu peux être encore capable de demander l'intercession à un autre qu'Allah? Subhanahu wa ta'ala. Donc, demander l'intercession à un autre qu'Allah, c'est gravissime. C'est comme si on pensait, qu'on le veuille ou non, qu'on pourra, pour demander à Allah azzawajal et lui faire parvenir notre demande, on a besoin de créatures qui vont lui parler de nous. Subhanallah, il nous connaît, nous et ces créatures qu'on a demandé avant même de nous avoir créés. Il savait le nombre de cheveux qu'on allait avoir dans la tête. Il savait à quel moment on allait avoir faim, à quel moment on allait avoir soif. Il savait quand on allait être malade et quand il allait nous guérir. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que demander la shafa'a à un autre qu'Allah, c'est un crime au-dessus de tous les crimes qui peuvent exister. Cheikh Al-Fawzan continue et dit, il y a à travers cela le fait de mettre le créateur et la créature à un même pied d'égalité. Car les rois, les détenteurs de l'autorité, les riches de ce bas monde, les présidents, les princes, et tout ce que vous voulez, eux, ils ont besoin de ministres, ils ont besoin de conseillers, ils ne peuvent pas tout savoir. Ils ont besoin de gens qui vont pour eux chercher les informations. Ils ont besoin de demander conseil à des conseillers, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'Allah a besoin de cela? Est-ce qu'Allah Azzawajal a besoin d'un intermédiaire qui va venir lui dire un tel a besoin de ceci, un tel a besoin de cela? Non, parce qu'il nous connaît, subhanahu wa ta'ala. En demandant l'intercession à un autre qu'Allah, c'est ce qu'on est en train de faire. Wal'iyadhu billah. Ils ont besoin d'aide. Et même les détenteurs d'autorité, les riches, les rois, les princes, vont s'entourer de gens. Et ces gens, quand ils vont intercéder pour d'autres personnes, ils vont accepter leur intercession. Parce qu'ils vont peut-être se dire, si je n'accepte pas, elle risque de me nuire. N'est-ce pas? J'ai besoin de le garder à côté de moi. Alors j'accepte ses demandes, je ferme les yeux sur ses demandes. Parce que si je ne lui donne pas ce qu'il me demande, il risque de me nuire. Il va se retourner contre moi, il va comploter contre moi. Mais est-ce qu'Allah a besoin de tout ça? Non. Quelqu'un peut faire quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala? Non, et mille fois non. Donc, c'est gravissime. Ashir al-Fawzan dit également, les rois de ce bas monde ne connaissent pas la situation de tout le monde. Mais Allah, lui, la connaît. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les rois de ce bas monde ont besoin d'intermédiaires. Va voir ce roi et dis-lui que ma famille a eu telle et telle chose et j'ai besoin de son aide. Puis quand on va voir ce roi en question, Cheikh Al-Fawzan dit, peut-être qu'il ne va même pas avoir de pitié pour la personne dans le besoin. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, arhamur rahimin, est le plus miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala, il a pitié pour ses créatures. C'est pour ça qu'il leur a révélé le Coran, qu'il leur a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour leur enseigner ce qu'il y a comme bien pour eux. Donc, c'est quelque chose de grave de demander l'intercession à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre? Ou en d'autres termes, pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans le livre Kitab al-Tawhid? La réponse est la suivante. Parce que demander l'intercession à un autre qu'Allah Azza wa Jal est du shirk, est du polythéisme. L'auteur nous enseigne donc le Tawhid par son contraire, en nous montrant que si demander l'intercession à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est du polythéisme, alors le tawhid dans cette question, c'est de la demander à Allah Azza wa Jal. Et on va apprendre comment demander dans ce chapitre l'intercession. Bi'idhnillahi ta'ala. Quel est maintenant le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents? La réponse est la suivante. Dans les chapitres précédents, L'auteur, rahimahullah, a cité al-isti'adha, al-isti'ghatha, al-du'a, la demande de protection, la demande de secours, l'invocation. Ensuite, il a montré l'état réel de tous ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient des anges ou des prophètes, dans les autres chapitres. Il a donc montré que parmi les choses auxquelles s'attachent les associateurs, c'est justement l'intercession. C'est-à-dire que quand on va leur dire, ils sont faibles, ils ne peuvent pas vous nuire, ils ne peuvent pas vous tirer profit, il va leur rester une dernière chose pour justifier le shirk. Oui, nous savons tout cela, mais on ne les adore pas, on leur demande simplement du fait qu'ils sont pieux et proches d'Allah, de nous rapprocher d'Allah. Ici, l'auteur va répondre à cela. Et il va montrer qu'ils se sont enfoncés dans le shirk avec ces paroles qu'ils ont pensé être des arguments qui justifient leurs actes. Wal'iyadu billah. Est-ce que cela est clair ? Alhamdulillah. Tayyib. L'auteur, rahimahullah ta'ala, va citer cinq textes que nous allons étudier. Mais avant cela, nous devons savoir que al-shafa'a, l'intercession, est de deux catégories. Dans les textes, dans le Coran et dans les hadiths, on voit que l'intercession est citée dans deux catégories. Al-shafa'atul manfiyya, l'intercession niée par les textes. Al-shafa'atul muthbata, l'intercession affirmée par les textes. Tantôt, on lit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y aura pas d'intercession. Tantôt, on lit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il y aura une intercession. Est-ce que cela est une contradiction ? Non. C'est simplement qu'il y a deux intercessions. Une qui nie, elle n'existera pas. Et l'autre qui est affirmée, elle aura lieu. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et en faisant la différence entre ces deux intercessions, tu comprends où se sont égarés les gens dans le domaine de l'intercession. Lorsque l'on dit l'intercession, al-shafa'atul manfiyya, le Cheikh al-Fawzan a dit huwa al-shafa'atu allati tutlabu min ghayri Allah. C'est l'intercession demandée à un autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que dans les textes du Coran et de la Sunna, lorsque l'on voit des textes, par exemple dans le Coran, wala shafa'a wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, et d'autres versets, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, il n'y aura aucune intercession, et d'autres textes encore. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui ont demandé l'intercession à un autre qu'Allah. À cause du fait qu'ils l'ont demandé à un autre qu'Allah, pour eux, il n'y aura nulle intercession le jour dernier. Ils ne pourront pas en tirer profit, parce qu'ils ont commis du shirk. Quand ils ont dit, subhanallah, comme en certains pays, par exemple du Maghreb, ils font tomber quelque chose, ou alors ils glissent, ils disent, ishfa' ya Rasulallah, intercède au messager d'Allah, wal'iyadu billah. Même quand tu glisses, il faut que tu commettes ash-shirk billah azza wa jal. Même quand tu fais tomber un objet de ta main, il faut que tu commettes ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala. Cette parole-là, shirkun akbar, c'est du polythéisme majeur, parce qu'on a demandé l'intercession à un autre qu'Allah. Et on n'a pas le droit de demander l'intercession à un autre qu'Allah. L'intercession, on doit la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'elle est le droit d'Allah, la possession d'Allah. Allah a dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, les groupes que d'ailleurs les savants ont surnommé Surat Al-Tawhid, la Surat du Tawhid, car elle regorge d'arguments dans le Tawhid. Am ittakhadhu min dunillahi shufa'a? Ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun? Dis, ô toi le prophète, dis-leur à ces gens-là qui ont cherché l'intercession chez autre qu'Allah. Allez-vous le faire? Allez-vous demander l'intercession à autre qu'Allah? Même si ceux à qui vous demandez ne raisonnent pas, ni ne possèdent quoi que ce soit. Puis Allah Azza wa Jalla continue et dit, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dis au toi le prophète à tous ces gens-là. Dites au vous les prêcheurs à tous ces gens-là. لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. À Allah tout entière appartient l'intercession. Et à la base, on dit الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ. L'intercession appartient à Allah. Mais dans ce verset, il y a le fait que ce qui devait être cité à la base après est cité avant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire l'intercession appartient à Allah, on a dit à Allah appartient l'intercession. Et quand Allah fait ça dans le Coran, c'est pour nous montrer l'exclusivité de la chose dont on parle. C'est-à-dire à Allah seul appartient l'intercession tout entière. Donc si elle appartient à Allah, quelque chose qui appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala, as-tu le droit de le demander à une créature? Voilà pourquoi c'est du shirk. Donc, ceux qui demandent l'intercession, que ce soit Al-Bura'i au Soudan, ou alors à Bamba au Sénégal, ou alors à Tidjani au Maroc et dans toute l'Afrique, ou alors à Majdoub au Maroc, ou alors à Nafisa en Égypte, et bien d'autres encore, sont tous dans l'erreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui a jamais demandé l'intercession. Aucun compagnon n'est allé le voir et lui a dit dans sa tombe, « Ya Rasulallah, intercède pour moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un meilleur que lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un meilleur que le messager sallallahu alayhi wa sallam? Non. Quand il voit quelqu'un se lever, parce qu'il arrive, il leur dit de s'asseoir et qu'on ne se lève pas pour lui. Quand il voit quelqu'un jurer par un autre qu'Allah, alayhi salatu wassalam, il s'énerve et leur dit ne jurez que par Allah, et celui qui jure par un autre qu'Allah a commis le shirk. Quand il a vu le compagnon se prosterner devant lui, il lui a dit que fais-tu? Le compagnon a dit je reviens de tel endroit et je les ai vus saluer leurs empereurs de cette façon, je te salue moi aussi de cette façon, ce n'est pas une adoration. Le prophète alayhi salam l'a dit, on ne se prosterne que pour Allah azza wa jalla. Quand il a vu le compagnon, après avoir vu quelque chose qui lui plaît, qui a dit voici ce qu'Allah et toi avez voulu, il s'est énervé et lui a dit as-tu fait de moi un égal à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens au tawhid. Et dans l'intercession, il y a trop de shirk que les gens commettent. Wal'iyadu billah. Puis quand tu vas venir appeler les gens au tawhid, quand tu vas venir leur dire c'est une erreur, tu verras que des gens vont te dire arrête de nous casser notre commerce. Arrête de nous casser notre commerce. Parce qu'ils commercent avec la foi des gens. Ils commercent avec le cœur des gens. Tu es malade? Tu as besoin de quelque chose? J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Tu veux l'intercession? Tu veux toutes ces choses-là? Amène-moi une bête. Amène-moi de l'argent. Amène-moi des vêtements. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Mais jusqu'à quand? Quelqu'un qui dit la ilaha illallah va continuer à agir ainsi. Jusqu'à quand? Quelqu'un qui dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va continuer à déplaire à Allah, à désobéir à Allah, à désobéir au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même dans des endroits, on voit que leur grand maître, il est sur son lit. Et qu'est-ce qu'on vient faire à ses pieds? On vient lui embrasser ses pieds. Il y a même dans d'autres endroits, des gens qui se prosternent, comme on se prosterne pour Allah, azza wa jal. Subhanallah. Ça c'est shirk billah dans sa réalité. Et très nombreux sont les gens qui sont tombés dedans et qui encore tombent dedans, soit par entêtement, ils savent ce qu'ils font, ils le font quand même, ou alors parce qu'ils ont été trompés par les prêcheurs du faux, par les prêcheurs de l'égarement, qui ne cherchent qu'à ramasser leur argent et s'enrichir sur leur dos. Wal'iyadu billah. Et si toutes ces choses-là en réalité étaient bonnes, pourquoi alors aujourd'hui beaucoup de gens de la communauté vivent ce qu'ils vivent, comme misère, comme pauvreté, comme maladie, comme guerre, comme meurtre, comme crime, comme viol? Pourquoi ça n'a pas marché toutes ces choses-là si c'est aussi facile que ça? Un gris-gris et c'est réglé. Un kitab, un hijab, un talisman et c'est réglé. Ah, tout ça, c'est les noms de la même chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on est toujours dans ce qu'on est? Parce qu'on a désobéi à Allah, Azza wa Jal. Parce que l'un d'entre nous, Inch'Allah, va craindre la créature d'Allah plus qu'il ne craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comment voulez-vous qu'Allah l'aide à réussir, ce pauvre serviteur, ce faible serviteur? On ne demande l'intercession qu'à Allah. L'intercession affirmée, al-shafa'atul muthbata, c'est celle que l'on demande à Allah. Donc, on doit dire, si on veut l'intercession du prophète par exemple, alayhi salatu wassalam, on doit dire, « Oh Allah, ya Allah, shafi' fiya rasulak, fais intercéder pour moi ton messager. » Et on ne doit pas dire, « Ya Rasul Allah, ishfa' fiya, oh messager d'Allah, intercède pour moi. » Subhanallah, tu changes juste un mot et tu es dans le bon chemin, si c'est accompagné de la croyance bien sûr. Tu changes un mot et au lieu de demander au messager, tu demandes à Allah que le messager intercède pour toi. Et là, ça peut être bon. Mais l'intercession qui est affirmée, qui est avérée par les textes, a deux conditions. Si ces deux conditions sont absentes, alors il n'y aura pas d'intercession. La première condition, al-ivn li shafi'i, l'autorisation qu'Allah donne à l'intercesseur le jour dernier. Le jour dernier, l'intercesseur, que ce soit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourra intercéder pour sa communauté, ou les anges qui pourront intercéder pour les croyants, ou des croyants qui pourront intercéder pour d'autres croyants, ils ne pourront pas arriver comme ça et intercéder quand bon leur semblera, quand ils voudront. Non, loin de là. Ils seront obligés d'attendre l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au moment où Allah leur dira, maintenant vous pouvez, ils pourront intercéder avec la deuxième condition qui est la suivante. La deuxième condition c'est l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah pour celui pour lequel on va intercéder. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il soit mort, muwahhid, monothéiste, dans le tawhid. Parce qu'Allah Azza wa Jal agrée celui qui meurt sur le tawhid. Même s'il a commis des péchés, desquels il ne s'est pas repenti, et à cause desquels il va être châtié, il sortira du châtiment par son tawhid, par son monothéisme qu'il avait dans le cœur, forcément. Et ce sont eux qu'Allah Azza wa Jal a agréés, subhanahu wa ta'ala. Même s'ils devront payer ou se décharger de leurs péchés par un passage dans le feu, qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas intercéder quand on veut et on ne peut pas intercéder pour ceux dont Allah n'est pas satisfait et pour ceux qu'Allah n'acceptera pas, qui sont les mushrikoun. Les associateurs ne pourront jamais bénéficier de l'intercession d'un quelconque intercesseur. Et la preuve, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Yalqa Ibrahimu abahu azara yawm al-qiyama » Le jour de la résurrection, Ibrahim rencontrera son père, le dénommé Azar. Fayaqul wa ala wajhi Azar ghabaratun wa qatara. Et sur le visage de Azar, le père d'Ibrahim, il y aura de la poussière et des ténèbres. Fayaqul lahu Ibrahim. Ibrahim dira alors à son père: Alam aqul laka la ta'sini? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Fayaqul lahu abu. Son père lui dira alors: Fal yawma la asik. Aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Pensez que ce sera utile aujourd'hui et le jour dernier, c'est trop tard. Fayaqul Ibrahim. Ibrahim va se tourner vers son créateur, subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer. Il va vouloir intercéder pour lui. Ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. Ô Seigneur, tu m'avais certes promis de ne pas m'avilir, de ne pas m'humilier le jour du rassemblement. Et quelle humiliation est plus grande que de voir mon père éloigné? Qu'est-ce qu'Allah va lui répondre, subhanahu wa ta'ala? Mais avant de donner la réponse, un instant, qui est Ibrahim? وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah Azza wa Jal a déclaré Ibrahim comme étant son ami, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim est le deuxième des meilleurs prophètes. Il a une descendance de prophètes. Ya'qub, Yusuf, avant eux, Ismaïl, Ishaq, et plein de messagers qui sont les enfants et petits-enfants d'Ibrahim. Il est très proche d'Allah, il est très aimé d'Allah. Allah l'aime, subhanahu wa ta'ala. C'est le deuxième meilleur messager. Et quand il va intercéder avec le rang qu'il occupe chez Allah, Allah Azza wa Jalla va lui dire: Inni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Fayuqalu lah, puis on lui dira à Ibrahim: Anzur tahta rijlaik. Regarde en dessous de tes jambes. Fayanzur, il va regarder. Fa'idha huwa bidhikhin mulattakh. Et il va voir son père qu'on aura transformé en hyène. Hyène, le hyène, l'animal sauvage. Vous connaissez l'apparence de hyène. N'est pas une apparence qui va t'attirer, n'est-ce pas? Mais Allah est sage, il sait ce qu'il crée, il sait pourquoi il le crée, de quelle façon. Il y a dans cela une sagesse parfaite. Mais le yen n'est pas un animal qu'on souhaite approcher. Donc, on aura transformé le père d'Ibrahim en yen, et en plus de cela, il sera recouvert d'impureté, de sang, d'urine et des impuretés. Il sera sale. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ. Il sera alors attrapé par les pattes, le père d'Ibrahim, le deuxième prophète chez Allah Azza wa Jal dans le rang. فَيُلْقَى فِي النَّارِ. Et on le jettera dans le feu devant Ibrahim. Subhanallah, il ne pourra pas intercéder. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas intercéder pour quelqu'un qui est dans le shirk et qui est dans le kufr. Et les gens qui demandent l'intercession pour un autre qu'Allah sont tombés dans le shirk et dans le kufr. Et à cause de ça, ils risquent d'être comme le père d'Ibrahim. Ils n'auront pas la shafa'a yawm al-qiyamah. C'est pour ça que l'ahlul sunna, ahlul tawhid, les gens de la sunna se fatiguent. Est-ce qu'ils cherchent cette dunya? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose quand ils disent aux gens: arrêtez de demander un autre qu'Allah? Est-ce qu'ils leur disent: donnez-moi un salaire? Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur force. Pour certains, ils voyagent. Et ils passent leur temps à aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à appeler les gens au tawhid. Il y a des gens de la sunna parmi les savants qui sont entrés dans des villages où tous les gens sont mushrikoun. Ils rentrent après le fajr, ils passent la journée avec eux, ils rentrent au maghreb, ils se sont tous convertis à l'islam. Ils sont tous rentrés au tawhid. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Tous ces gens-là, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent cette dunya? Ils n'ont pas d'intérêt, si ce n'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Alors que ceux qui disent à leurs disciples: invoquez-moi, demandez-moi, sollicitez-moi, je vous donnerai. Regardez ce qu'ils cherchent. Ils ne font rien sans une somme d'argent. Voyez la différence. Qu'est-ce que vous choisissez maintenant? At-tawhid, d'être proche d'Allah, le monothéisme, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous agrée, qu'on puisse intercéder pour vous yawm al-qiyamah, ou alors la pauvreté, la faiblesse, les malheurs, les problèmes. et être les serviteurs de serviteurs faibles, peut-être plus faibles que vous. Ô serviteurs d'Allah, qui entendez ces paroles, et Allah Azza wa Jal peut amener ces paroles au fond de la terre. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux conditions ont été citées dans le Coran. La première, dans surat, dans Ayat al-Kursi, dans d'autres versets aussi, mais à titre d'exemple, dans Ayat al-Kursi, Allah Azza wa Jal a dit « Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih » Qui peut intercéder auprès de lui sans son autorisation? Deuxièmement, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Ils ne peuvent intercéder que pour ceux qu'il a agréés, pour celui qu'il a agréé. Donc il faut l'autorisation et il faut l'agrément et on développera cela, inshallah ta'ala, plus en détail au prochain cours. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك